Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un invité qui, on peut le dire, a de la bouteille dans l'écosystème sport média, mais surtout un invité qui pilote une marque unique au monde, le Ballon d'Or. Si on va beaucoup parler du Ballon d'Or aujourd'hui, on va aussi revenir sur la trajectoire très riche de mon invité. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nicolas, aujourd'hui, tu es le patron de l'acquisition des droits pour l'équipe, donc des contenus, mais tu es aussi le patron du Ballon d'Or. Deux missions passionnantes que tu vas un petit peu nous décrire, mais comme je sais que tu as déjà écouté des épisodes, tu sais aussi que j'ai une question un peu traditionnelle qui est la suivante, c'est comment on s'entraîne à devenir Nicolas Manissier ?
Alors moi, je suis très modeste, donc je trouve que la question me concernant est plutôt déplacée. Mais en tout cas, ma carrière, elle est fondée sur la passion et la passion du sport. Alors parfois, on me dit que je suis un petit peu trop passionné et un peu trop dans l'affect. N'empêche que ça te nourrit au quotidien et j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, mon entraînement, c'est aimer beaucoup, beaucoup ce que je fais.
Et du coup, aimer beaucoup ce que tu fais, c'est pas forcément... Le premier taf que tu as eu, c'était pas forcément dans le sport. En effet, depuis, on va dire, 15 ans, tu es dans le sport. Et au départ, tu n'étais pas forcément dans cet écosystème parce que tu bossais dans des services à destination des industries du monde de la finance, c'est ça ?
Exactement. Ouais, moi, j'ai commencé avec une carrière, somme toute, classique quand on a fait une école de commerce. J'étais diplômé de l'ESCP et puis j'ai commencé sur de l'investissement. J'étais dans une boutique qui mesurait la performance financière de fonds. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait à l'étranger. J'avais la responsabilité du bureau espagnol de la boîte pour laquelle je travaillais. Et puis, j'ai été rattrapé par l'idée qu'on n'a qu'une vie et que si on peut réussir à travailler sur un terrain de jeu qui nous émeut et qui nous transporte au quotidien, bah c'est une grande chance. Et donc, j'ai eu la chance d'être recruté par Patrick Chen, ouais. Dont tu as fait un épisode, avec lequel tu as fait un épisode il n'y a pas longtemps, ouais. En 2007, chez Sport Ever. Et puis, voilà, donc mon virage dans cette industrie du sport a commencé à cette occasion-là.
Et cette tentation, cette envie de rejoindre un écosystème, enfin l'écosystème sport, tu l'avais avant tes études, au cours de tes études, à quel moment tu t'es dit non mais il faut que j'aille bosser dans cet écosystème ?
Non, je l'avais pas, sincèrement. J'étais un bon élève et donc j'ai suivi pas à pas ce qui était classique de faire à l'issue de mes études. À l'époque, ce qui était à la mode, c'était le conseil et la finance. Donc voilà, j'ai suivi ça. Puis moi, j'avais fait une partie de mes études à l'étranger. Et donc, j'avais une opportunité de travailler donc à Madrid. Et donc, je l'avais saisi. Mais je ne me posais pas la question de travailler dans le monde du sport. J'étais juste passionné, pratiquant. Et il ne me semblait juste pas possible, en fait, d'allier ma vie professionnelle avec ce type d'appétence. Et puis finalement, arrivé à 30 ans, je me suis dit que c'était peut-être possible. Et puis j'ai eu de la chance.
Voilà. Ok. Bon, un peu de crise de la trentaine et surtout une rencontre, du coup, ouais. Avec Patrick Chen. Pourquoi tu rejoins Sport Ever ? Ok, il y a un sous-jacent qui est la passion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu rejoins cette aventure ? Parce que bon, il n'y a pas que Sport Ever dans la vie à cette époque-là, dans le monde du sport. Pourquoi c'est ce projet-là ?
Non, bah c'est une question d'opportunité, hein, pour le coup. Moi, je venais d'avoir mon premier enfant, donc c'est la crise, mais en tout cas, c'est un moment de questionnement très, très fructueux. Et donc, je vois une annonce, en fait, hein, tout simplement. J'appelle Et puis, on se rencontre et ça fit.
Ouais.
Donc, c'était une annonce pour occuper un job bien précis de chef de projet pour le compte de Sport Ever au moment de la Coupe du Monde de rugby 2007. Le groupe Orange, dont Sport Ever était un partenaire, un prestataire très fidèle et très particulier, était le producteur de tous les contenus nouveaux médias, on appelait ça comme ça, à l'époque, pour la Coupe du Monde de rugby 2007, qui avait lieu en France. Et c'était Sport Ever qui était producteur exécutif de ces contenus-là. Donc, c'était des résumés de matchs, du quasi-direct, ce qui existe encore, hein, ce que fait Free sur la Ligue 1 aujourd'hui, qui était fait sur tous les matchs de la Coupe du Monde de rugby et qui était fait à destination de pas mal de repreneurs, hein, tous les pays du rugby. Donc, voilà, moi, j'étais chef de projet. On avait toute une équipe qui fabriquait des contenus, écrits, vidéos, à destination de l'opérateur télécom australien ou néo-zélandais, de O2 au UK, etc., qui avait acquis ces droits-là. Mmh. Et donc, j'étais censé être là juste pour 6 mois. Et puis, j'ai eu de la chance. Celui qui était mon boss à l'époque a quitté Sport Ever au moment de la fin de ma mission. Et c'est là que Patrick et Jacques-Henri Hérault, qui était son adjoint, m'ont proposé de me titulariser et de m'occuper de Orange, qui était le client majeur en fait de la boîte. Et pour Orange, on faisait beaucoup de production exécutive de tout leur contenu sport. Ils étaient en train d'avoir une stratégie très offensive, notamment sur leurs portails digitaux. Il y avait le WAP à l'époque, et puis les portails digitaux d'Orange.fr. Ils acquéraient beaucoup de droits. Quelques années après, l'année d'après, ils ont acquis des droits de la Ligue 1. Ils ont construit Orange Sport, et c'était les équipes de Sport Ever, en fait, qui assuraient la production exécutive. Ça veut dire que c'est nous qui avions les journalistes, qui produisions tous les contenus, qui étions sur le terrain. On produisait quasiment l'intégralité des contenus d'Orange Foot, qui est devenu Orange Sport, et puis d'une chaîne d'infos sportives qui s'appelait Orange Sport Info. Et voilà, moi j'étais le chef d'orchestre de tout ça, et j'assurais le lien avec Orange. Et c'était une expérience géniale, parce qu'ils avaient mis beaucoup de moyens, donc... Au-delà de la Ligue 1, il y avait des droits de tennis, d'athlètes, pas mal de championnats européens de foot. Et voilà, on produisait tout ça pour eux. Et moi, j'étais au cœur de ça. Donc, ça m'a créé beaucoup de réseaux, beaucoup d'expériences. J'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là avec Patrick à nos côtés.
Mais d'ailleurs, qui
était très, très fort.
Qu'est-ce que tu apprends auprès de Patrick, ou qu'est-ce que tu apprends? En effet, tu gères le plus gros client de la boîte, qui est Orange. D'ailleurs, on pourrait y revenir. C'est peut-être été un problème, d'ailleurs, le fait qu'il y ait un très, 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 très gros client et qu'il n'y ait peut-être pas forcément d'autres gros clients comme ça, au moment où Orange a décidé d'arrêter. Si tu devais un petit peu retracer les principaux enseignements de ces années Sport Ever, ça serait quoi? Et aussi... Ce qu'on peut lire dans ta trajectoire, dans ton parcours, c'est que tu deviens aussi directeur général adjoint, COO. Donc, tu es le numéro 2, 3, 4 de la boîte à un moment donné.
Ouais, j'étais son DGA, donc ouais, j'étais son adjoint. Aux côtés de quelqu'un comme Patrick Chen, on apprend toutes les ficelles du métier des médias. Hein. C'est un professionnel, comme j'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie, qui est surtout... à la fois très fort sur les contenus et très fort sur le business. Le suivant que j'ai connu de ce type-là, c'est Cyril Linette. On apprend à faire la part des choses entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire. On apprend à ne pas, même si c'est des métiers où la plupart des gens qui travaillent sont... comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, sont des passionnés, mais en fait, on fait un produit pour les autres, hein, pas pour soi. Donc, il faut être capable de parler dans un langage qui soit le plus propice à la meilleure, la meilleure compréhension possible pour l'auditeur, le téléspectateur, l'internaute final. Patrick, il était très à cheval là-dessus. Puis après, pour ce qui est de la partie plus business, il faut être capable de construire des P&L qui fonctionnent, qui soient qui soit pas idéaliste. On va pas dépenser des sommes folles en face de contenus qui peuvent pas être rentables. Et d'un autre côté, voilà, on était des nouveaux venus sur ce secteur-là. On avait inventé des nouvelles manières de produire. On utilisait le terme low cost, qui à l'époque n'était pas nécessairement péjoratif, qui peut l'être devenu un tout petit peu, mais quoi qu'il en soit, on ne faisait pas non plus des économies de bout de chandelle juste pour dépenser moins au détriment de la qualité de ce qu'on produisait. Mais on était dans une structure très, très efficace, on pourrait dire, à tous les sens du terme, qui se faisait forte de délivrer le meilleur contenu possible dans une équation économique qui n'était pas simple, quoi. Et voilà, et ça m'est resté. Et j'ai vraiment essayé d'appliquer ça dans mon job à l'équipe. Il faut être raisonnable dans l'exploitation des ressources qu'on nous met à dispo. Et ça ne doit pas empêcher de proposer le meilleur contenu possible. À la fin, on est en train de parler de quelque chose que l'on aime à des gens qui sont infinitaires. Donc, il faut qu'on soit fier de ce qu'on propose, quoi. Donc, on fait pas d'économie juste pour le plaisir de le faire. On essaie d'être le plus efficace possible. J'ai vraiment appris ça aux côtés de Patrick.
Ouais. Et donc, Sport Ever, je disais un tout petit peu avant, ce qui est arrivé à Sport Ever, c'est surtout le retrait d'Orange de la partie. Et donc, avec un PNL qui dépendait énormément d'Orange et la difficulté pour Sport Ever de se relever, parce que si ton principal client s'en va, c'est compliqué ensuite. Et d'ailleurs, Patrick l'expliquait dans l'épisode, c'est que tout l'enjeu, ça a été aussi qu'il y a quand même un peu une continuité avec les équipes d'une manière ou d'une autre, soit pour Orange, soit pour d'autres médias, parce que je sais que, comme disait Patrick, Sport Ever a nourri aussi beaucoup, a fait monter beaucoup de talents qui sont de suite allés dans plein d'autres entités, plein d'autres médias. Comment toi, tu as vécu cette fin de Sport Ever, même si je crois que tu es parti un tout petit peu avant la fin. Quelle vision tu gardes de ça maintenant que tu es chez l'équipe et de la manière dont les choses sont faites chez l'équipe, parce que avec le recul tu te dis on aurait pu faire ça, on aurait dû faire ça. Alors c'est pas histoire de dire c'est pas post-rationaliser pour le plaisir, mais avec l'expérience prise, est-ce que tu arrives à identifier peut-être des erreurs que vous auriez peut-être faites?
Non, je pense pas qu'on ait fait tant d'erreurs que ça. Simplement, il y a une taille critique qu'il faut avoir. En fait, Sport Ever avait la chance d'être sur deux jambes à un moment donné. On avait Orange comme client sur notre partie B2B et producteur de contenu pour tiers. Et puis, on avait des médias, la galaxie des médias 365, qui existe encore d'ailleurs, avec Foot 365, qui était un site très très puissant. C'était assez équilibré. Ensuite, la part du B2B a beaucoup cru. Évidemment, quand Orange a décidé de se désengager, il fallait resizer l'entreprise et c'était pas évident. On a réussi à créer une chaîne qui finalement, c'est un peu comme les écuries de Formule 1, Orange Sport Info, qui était la chaîne que l'on produisait pour Orange, est devenu Sport 365, Sport 365, la chaîne du jeu et des enjeux, qui a existé pendant pas mal de temps. On l'a créé de toutes pièces avec Patrick et avec quelques autres qui nous ont aidés pour trouver le concept et puis pour le développer. Cette chaîne, c'est un peu devenu Sport en France, en fait. Il y a pas mal de gens qui travaillent encore.
Sport Ever a été racheté par Reworld Media.
Exactement.
Qui, du coup, opère la chaîne Sport en France en partenariat avec le CNOSF.
Ouais.
Et tout ce beau monde est dirigé par Guillaume Sampic, qui était aussi passé sur le podcast.
Ouais, donc c'est comme les équipes de Formule 1 ou les équipes cyclistes. Il y a une même base, puis ça change de nom. Alors, c'est pas exactement la même chose. Mais il y a ce savoir-faire qui est très propre à l'esprit de Patrick, c'est-à-dire que ce sont des journalistes qui sont la plupart du temps recrutés jeunes et formés et qui développent des compétences au fur et à mesure de leur apprentissage sur le terrain. Il y en a beaucoup qui exercent leur talent ailleurs maintenant, et une des choses que moi je retiens, c'est ça, quoi. C'était une pépinière incroyable. Mmh. Et y a beaucoup qui sont à l'équipe, mais j'en croise d'autres un peu partout dans ce tout petit secteur. Et ça, c'est génial.
Mmh. On disait pour PayPal, c'était la mafia PayPal. Là, c'est la mafia Sport Ever. Du coup.
Un peu.
Celle qu'on, fait, qu'on percolait tout l'écosystème sport média. Ok, super. Tu gardes du coup beaucoup de bons souvenirs ouais. de cette expérience. Et puis surtout, comme tu disais, t'es arrivé, t'avais à peine 30 ans, ouais. t'es monté assez vite, t'étais un key people, comme on dit, avec un rôle de DG adjoint sur la fin.
Ouais. Pendant deux ans.
Pardon ?
Ah, c'est... Ouais, ouais. Non, mais c'est... Bah, oui, c'est une chance hein, de, ouais. qu'on nous fasse confiance. Et on apprend, on prend des murs, hein. on a des échecs, on a des erreurs, tout s'est pas toujours très bien passé, mais c'est normal, hein. C'est pas la vie professionnelle comme la vie tout court, c'est pas dénué d'obstacles et de tempêtes et de périodes de calme. On a réussi de très belles choses, on a eu des années économiquement qui étaient super. C'était plus dur sur la fin, en tout cas sur la mienne. À partir du Orange est parti, ils ont arrêté Orange Foot et leur droit Ligue 1 en juin 2012. Bon, ben c'est sûr que ça a été assez difficile. Au même moment, il y a eu le début d'une assez grosse crise publicitaire. Donc, nos sites ont eu quelques difficultés économiques, eux aussi. Bon, j'ai fait de mon mieux dans ce cadre-là. Il fallait faire beaucoup, beaucoup de sacrifices pour que l'entreprise reste à flot. Elle est restée à flot. Voilà. Ouais. Parce que partie des choses...
Bon, entre les lignes, là, je sais que tu t'es aussi occupé de, malheureusement, de séparer beaucoup de collaborateurs.
Ouais, enfin, évidemment pas tout seul, mais ça fait partie des choses nous avons été obligés de faire, quoi, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Okay.
Et donc, en effet, c'est jamais marrant. Non. Et donc, tu repars avec une boîte à outils qui est quand même pas mal, là. 7-8 ans à Sport Ever, à monter un peu tous les échelons, à faire un petit peu de tout, mais jamais de rien. Et donc, tu arrives à l'équipe en 2015 avec finalement un poste, en tout cas quand on regarde un petit peu ta bio, de chef des opérations, de patron des opérations.
Absolument. Auprès de Cyril Linette.
Ouais.
Je suis arrivé, je pense que j'étais sa première recrue, dans un rôle d'adjoint auprès de lui, et c'était extraordinaire.
Pourquoi
c'est extraordinaire ? Parce que cette première année que l'on a passée côte à côte, elle avait pour objet de ce qu'on disait à l'époque. Bon, il faut le prendre comme dans la situation dans laquelle on s'est trouvé quand on est arrivé à l'équipe. Réveiller la belle endormie. L'équipe, c'est une marque absolument extraordinaire, vraiment, et qui repose sur des équipes d'une compétence folle, notamment les équipes éditoriales, mais pas seulement. Il y a une rédaction de encore 350 personnes aujourd'hui. Et donc, c'est une marque qui est totalement référente pour quiconque aime le sport en France. Évidemment que le monopole, en quelque sorte, de l'équipe sur la formation sportive fait que, on dit toujours que... Voilà, les articles, les prises de position de l'équipe sont tout le temps commentées. Nous, on a ce gimmick chez nous, c'est que les supporters de l'OM considèrent que l'équipe est pro-PSG, et puis ceux du PSG considèrent l'inverse, quoi. Parce que l'équipe va chercher ses infos, c'est un travail journalistique remarquable, exceptionnel, qui est fait chez nous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une fake news qui sort de l'équipe, parce qu'on a vraiment des journalistes sous le terrain, et c'est essentiel. Et donc... travailler pour une telle institution, je pèse mes mots, c'est une chance folle. De côté, ça implique une forme de devoir, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle retrouve de sa superbe ? Et en fait, en 2015, l'équipe sortait d'une période très très difficile. Sortait, en tout cas, parce que on a réussi, je pense, à inverser vraiment la tendance durablement. La même crise publicitaire qu'on a connue chez Sport Ever, elle s'appliquait à tout le marché. Et en fait, depuis plusieurs années, les recettes publicitaires de l'équipe, et notamment celles du print, étaient en chute libre, en tout cas baissaient beaucoup. Il y a eu un âge d'or de la presse écrite qui a duré des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, et puis l'érosion s'est accélérée à partir de 2010. Et il y a eu plusieurs plans sociaux pour, au début des années 2010 dans le groupe L'Équipe pour entraver les effets en fait, de cette baisse de chiffre d'affaires. En parallèle, vous voyez bien, et c'est toujours en cours, une tendance très lourde et structurelle de baisse des ventes de la presse écrite. Voilà. Les gens lisent toujours autant, peut-être même plus qu'avant, mais plus dans ce format physique du journal qu'on achète le matin en partant au bureau ou pendant nos vacances sur une terrasse de café, parce qu'en fait, on lit notre journal maintenant sur notre téléphone, et ça a des impacts très très forts, évidemment, sur l'économie de titres de presse comme L'Équipe, mais comme c'est le cas pour la presse quotidienne nationale et pour la PQR. Donc, face à ces enjeux qui pouvaient mettre en danger, je pense, la vie de l'entreprise, nous, on avait une grande confiance que nous accordaient nos actionnaires pour proposer un certain nombre de choses. Et on a pris quelques mois pour profondément auditer ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins. Et puis, on a pu prendre un certain nombre de décisions assez rapidement, notamment le passage au tabloïd qu'on a fait en septembre 2015. Un recentrage très fort sur le numérique, vraiment, qui aujourd'hui demeure le cœur du réacteur pour L'Équipe. Et puis, la transformation de la chaîne de télé en une chaîne de sport, plus qu'une chaîne d'information sportive. Toute cette stratégie de droit dont Cyril m'a donné la responsabilité au bout de 9-10 mois, parce que c'était clé et que j'avais... la raison pour laquelle il m'a donné cette mission sur les acquisitions, c'est que j'étais un financier à la base. Et que ce sont des gros budgets et qu'il s'agit de les allouer avec quand même pas mal de
rationalité.
Ouais, exactement.
Même si tu as dit au tout début que tu étais un émotionnel ou que
t'étais... Ah oui, bien sûr, mais j'ai dit aussi que j'avais appris à l'école de justement on achète pas les choses, on fait pas les choses pour se faire plaisir, mais pour trouver un public quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai eu cette mission là.
Et donc ouais, tu en effet, ça a dû être une année époustouflante de redéfinition de la strat, de rebranding, de réorganisation, d'embauche. Donc ça c'est quand même je sais pas combien d'heures vous avez travaillé par jour pendant cette période là mais ça devait être assez intense, avec des effets qui se voient en plus sur long terme. Cyril a en partie vu certains des effets de son action, toi tu continues de les voir. Est-ce que entre le plan que vous avez défini en 2015 et aujourd'hui en 2022, tu t'es dit, purée, on y avait pensé et ça se passe comme on l'avait pensé et c'est un élément de fierté.
Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Ça me rend très fier qu'on ait posé les bases comme ça. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été de l'ordre de la même façon, Ouais, peut-être que le terme de sacrifice est un terme fort, mais
ouais.
Ben, on a
été... L'investissement, on va dire.
oui, mais le sacrifice, ça veut dire qu'on a travaillé très très fort sur la structure de coûts pour être plus efficace, et ça a donné lieu à des... Je ne sais pas comment tourner le terme, je pense
des
que...
Des décisions difficiles.
Voilà, ouais. Mais le parallèle de ça, c'était que le principe, l'objectif n'était pas... De réduire la voilure, mais bien de réallouer les ressources dans l'optique de toucher au maximum le public qui était historiquement lecteur de L'Équipe et puis le public qui pouvait devenir lecteur de L'Équipe. Lecteur, internaute, téléspectateur, on avait cette formule à un moment qui était je lis L'Équipe, je consulte L'Équipe, je regarde L'Équipe.
Ouais.
Et donc, il y a eu un gros travail de marque qui a été fait avec la marque unique. Le principe étant de réarrimer la chaîne de télé à l'offre éditoriale et au narratif du journal et du site qui, eux, étaient bien, bien alignés pour s'assurer d'une cohérence globale Et c'est pas simple, hein, parce que ce sont des médias qui sont différents, avec des temporalités différentes, avec des objectifs qui sont pas les mêmes et qui touchent des publics plus ou moins larges. La chaîne de
et
télé,
des équipes différentes.
Et en plus, des équipes différentes. Enfin, on travaille tous dans le même immeuble et sous la même bannière. Donc, bon, des équipes, il faut s'imaginer qu'elles travaillent ensemble. En revanche, notre chaîne de télé, elle touche aujourd'hui 35 millions de téléspectateurs par mois. Donc, elle est très grand public, puisque c'est une chaîne de TNT. Nécessairement, on ne travaille pas la promesse éditoriale d'une chaîne de télévision de TNT, pour autant que c'est une chaîne de sport, de la même façon que l'on travaille la promesse éditoriale d'un quotidien comme l'équipe. Le quotidien, l'équipe, c'est devenu presque un objet de luxe. Parce qu'aujourd'hui, payer 2,20 € le journal, bah, très peu de gens qui le font, quoi. C'est une réalité. Mais en face de ce journal, on doit donner un niveau d'expertise, de profondeur, d'analyse, de qualité éditoriale qui est très 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 élevé et qui est très pointu. Tandis que notre chaîne de télé, elle s'adresse à un public hyper large, et c'est très très vrai pendant la Coupe du Monde de foot. Des gens qui vont venir chercher. Et oui, alors c'est presque de l'entertainment. En tout cas, c'est plus un moment de loisir, de lâcher prise, de plaisir. Et donc, il faut réussir à faire coopérer, cohabiter sous une même marque des objectifs qui parfois peuvent paraître un tout petit peu éloignés les uns des autres. Et je pense qu'on a réussi à quand même trouver un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le faire. Ça fait vraiment plaisir.
Ça suscite une question que je te poserai tout à l'heure. Une fois que vous aviez fait ce plan en 2015, là on est en 2022, est-ce qu'il y a un nouveau plan 2032 peut-être? Et tu nous diras si tu peux en définir certains contours. Mais du coup, je voulais avancer un petit peu sur notre discussion, puisqu'en effet, tu l'as dit avec Cyril Linette, vous avez orchestré en tout cas le travail de refonte. Vous n'étiez pas tout seul, évidemment. Hein,
non, bien sûr que non.
Mais finalement, toi, tu décides non pas de quitter ton poste de COO, qui est un poste très transversal sur les opérations, même si, encore une fois, c'était arrivé au moment de la redéfinition. Et tu viens, dans un des cœurs du réacteur. Ce sont l'acquisition des droits, parce qu'en effet, c'est une chaîne de sport, c'est ça que tu dis, qui repose en partie sur des contenus originaux et des émissions réalisées sur plateau originales, mais aussi sur l'acquisition de droits. Pourquoi, à quel point c'est cœur du réacteur la direction des acquisitions dans une chaîne de télé?
Parce que c'est un des postes de coût les plus élevés, hein. Déjà, donc évidemment, on peut pas trop se permettre de faire des erreurs majeures, parce que ça pourrait devenir des accidents industriels. Et puis, à partir du moment où notre stratégie a été de proposer une chaîne qui diffuse du sport en direct, ce qui paraissait à la fois complètement logique, parce que c'était la seule chose qui manquait en fait à la marque L'Équipe. C'était de diffuser du sport. On parlait beaucoup, des articles avant les compétitions, après des débriefs, des récits, du très très chaud avec le digital. Et en fait, la chaîne était redondante. Bon, et en fait, cette chaîne-là, enfin la télé, ça sert quand même à donner à voir, et encore plus quand on travaille sur le sport. Donc, il fallait qu'on soit en capacité de diffuser des matchs de foot, des courses d'athlètes, des courses de biathlon, que sais-je, la moto, du vélo, etc. Mais à l'époque, c'était pas complètement évident. Donc, il y a une première phase qui a été donc dure. C'est sur quoi j'hésitais un tout petit peu tout à l'heure quand on parlait de moments difficiles. Il a fallu repenser complètement le modèle économique de la chaîne, et c'est passé par réallouer les ressources, donc beaucoup de ressources qui étaient en masse salariale, parce que ça coûte cher de faire une chaîne d'info, c'était une chaîne d'info, et réallouer ces ressources-là sur un budget conséquent pour acquérir des droits, pour acquérir et parfois produire également les contenus, les directs. Bon, c'est une grosse responsabilité, parce que quand on réduit la taille des effectifs et la masse salariale, et qu'on te donne un budget pour acquérir des droits, t'as quand même intérêt de le faire correctement, quoi.
Sinon, on va tomber dessus.
Sinon, t'as pas fait ton boulot, quoi. Tu l'as mal fait. Et c'est d'autant plus vrai qu'on avait la conviction, la certitude que cette chaîne, ça pouvait devenir vraiment la maison du sport pour tous les Français, quoi. Ouais. En tout cas, en télévision. Et moi, j'avais un fantasme à l'époque, parce qu'au début, c'était difficile de convaincre les gens de venir la diffuser sur l'équipe. Et j'avais un fantasme qui s'est transformé en réalité, c'est que les gens, entre guillemets, frappent à la porte, presque se battent pour être diffusés chez nous, puis qu'on n'ait pas la place de le faire, et que parfois, je suis obligé de dire non. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la chaîne, grâce à la transformation d'un potentiel en réalité. Ah, ça m'arrive toutes les semaines de dire, non, j'ai diffusé votre meeting d'affilée.
Alors là, t'es loin, je sais pas, ouais. On t'entend plus là.
Ah mince, je suis désolé.
T'es loin.
Peut-être que je reprenne, alors je sais pas.
Tu dis c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la chaîne.
Ouais, c'est grâce à la chaîne et à la transformation d'un potentiel en réalité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'appels entrants, d'organisateurs, d'ayants droit, de fédés, d'agences qui nous proposent des événements que moi j'aimerais beaucoup pouvoir diffuser, mais pour lesquels j'ai pas la place. On n'a pas la place. Et c'était un fantasme, mais c'est devenu une réalité. Aujourd'hui. Mon job est beaucoup plus simple qu'il ne l'était quand je l'ai commencé, en toute sincérité. C'était difficile d'acquérir les premiers droits, les premiers gros droits. Il fallait convaincre. Acheter des droits, c'est particulier parce que quand on achète un droit, on est le seul à pouvoir l'acheter. Bon. Donc, parfois, c'est un peu comme quand on vend, c'est-à-dire qu'il faut se vendre soi-même pour être celui qui va être choisi. Et quand on a acheté le biathlon, par exemple, ça a été un vrai combat, une vraie lutte.
Et c'était le coup de maître.
C'était un coup génial. Vraiment. On est quelques-uns à en assumer une forme de paternité de Fabrice Jouot, qui était le patron de la chaîne à l'époque, à Cyril. Je pense que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice aussi, parce qu'on y croyait et on croyait très fort à cette idée qu'il y avait beaucoup de sports qui avaient un vrai potentiel en télé gratuite.
Je voudrais justement te relancer sur ça.
Ouais.
Tu as dit Cyril Inet, il me met aux acquisitions, gros poste de coup, il faut un financier. Mais at the end of the day, comme on dit en mauvais français, il y a aussi de l'intuition, il y a aussi une espèce de gut feeling de se dire ok, le biathlon, on va miser dessus, on va inventer une nouvelle narration du biathlon. En tout cas, c'est un sport qui va s'adapter ou qu'on va pouvoir adapter pour une narration qui va performer en télé. Enfin, à quel moment il y a le poids de l'éditorial et de la narration vient impacter le choix et l'acquisition d'un droit?
En fait, moi, mon job, à la base, j'ai été choisi, pas seulement parce que j'étais un financier, c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante. La deuxième, c'est d'avoir en effet une connaissance large de tout ce qui est le paysage du sport en télévision ou dans les médias. Quelles sont les compétitions qui existent, en avoir vu le plus possible et avoir une idée de ce qui en effet peut marcher. Le gut feeling, comme tu dis, c'est que je suis très très gros consommateur de sport à la télévision et de manière très large et sur beaucoup de disciplines. Ouais. Donc, évidemment, à un moment donné, on a plusieurs choix, on peut faire plein d'études, etc. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Mais à l'époque, il fallait un peu opportuniste. J'ai tout à fait le souvenir d'un journaliste de la rédaction du Quotidien qui vient dans mon bureau et qui me dit « Écoute, j'ai l'impression que l'Eurovision, qui distribue les droits du biathlon, on est en juin-juillet 2015, que l'Eurovision va essayer de trouver un diffuseur en clair pour le biathlon en France. » Voilà, ça c'est le moment où tout d'un coup, moi j'ai cette information-là et je le dis tout de suite, le biathlon c'est incroyable, moi j'adore, et je pense que ça pourrait vraiment marcher en clair. Et puis derrière, on en parle avec donc Fabrice Jouot, qui lui connaissait pas mal Martin Fourcade, qui va voir Martin. On en parle avec Cyril Linette, qui, venant de Canal, avait cette ouverture d'esprit pour des sports. Enfin, Canal avait cette habitude, hein, même s'ils étaient devenus évidemment un diffuseur majeur du foot et très concentré sur le foot et le rugby, mais ils avaient cette habitude historiquement d'aller chercher des sports un peu différents, un peu moins conventionnels. On était tous les trois vachement alignés sur l'idée que ça pourrait être une bonne idée. Mmh. Et ça nous suffisait à ce moment-là, parce que de toute façon, on était dans l'idée de lancer une stratégie autour d'événements en direct. Ça n'a pas suffi, il a fallu qu'on se batte beaucoup pour transformer cette possibilité en une réalité. On a passé des mois et des mois à essayer de convaincre l'Eurovision qu'il fallait venir chez nous. Et avec pas mal de vent contraire à l'époque, parce que aujourd'hui c'est mon boss, mais Laurent Prudhomme était lui chez Eurosport, il était aux acquisitions chez Eurosport, et il n'avait absolument pas envie qu'une de leurs pépites soit codiffusée en clair sur l'équipe. Quoi. Donc c'est la cuisine du marché des droits, mais Eurosport a tout fait pour nous empêcher de faire cette acquisition. On avait beaucoup de chance parce que Martin Fourcade est un winner dans l'âme. Donc, à peine avions-nous commencé à diffuser la Coupe du Monde de biathlon en fin novembre, début décembre 2015, qui gagnait course sur course. Et en fait, on a transformé au fur et à mesure le narratif et l'éditorial en suivant beaucoup Martin. Mm-hmm. Lui, il a donné beaucoup de son temps. C'est un client fantastique. Et après, on a appris vraiment à tirer le maximum au fur et à mesure. Au début, c'était le patron de la chaîne, c'était Arnaud de Courcelle, qui venait, donc qui a été recruté par Cyril Linette très vite, 6-8 mois après moi. Évidemment que le biathlon était notre sport phare, on en a acquis d'autres. Par la suite, Jérôme Saporito, que tu as interviewé dans ce podcast il y a quelques semaines, a pris le relais et a rajouté au pot, je pourrais dire, sur le traitement édito du biathlon, en se disant que Martin s'arrête, mais nous on s'arrête pas, on continue. Et c'est une réussite parce que on y a cru, mais on a surtout aussi mis beaucoup de moyens, d'entrain, d'énergie, de plaisir à en faire un produit, je pense, qui est hyper télévisuel. Et pareil, mais c'est Messaoud Ben Terki qui présente. Il est rayonnant dans la présentation du biathlon parce que toutes les étoiles s'alignent en fait sur un événement, sur un sport comme celui-là. Mmh.
Bon, fabuleux. Jérôme disait que vous étiez, il fallait être malin dans l'acquisition des droits. Donc, vous l'avez été pour biathlon avec ce sacré coup. Mais depuis 2-3 ans, vous avez des gros concurrents qui arrivent sur le marché. Je pense au Netflix, au Apple, au Amazon, qui arrivent dans le game. Alors, peut-être qu'ils achètent des droits que vous n'auriez pas achetés de toute façon. Mais comment tu vois l'arrivée de ces gens-là pour l'équipe et pour ton métier?
Je pense qu'on n'est pas tellement sur le même, sur le même scope. Le marché français des droits, c'est un marché très, enfin, des droits sportifs, c'est un marché très particulier qui a toujours fait un peu office d'Eldorado. J'ai jamais compris pourquoi, pour le moment. Enfin, je suis dessus depuis quelques années. Et tellement se sont cassés les dents de TPS à Orange en passant par Bein. Enfin, Bein, c'est une très belle marque, mais il a fallu qu'ils attendent d'avoir un accord de distribution avec Canal pour arriver à l'équilibre.
Ouais.
Donc parce qu'il faut parler de Mediapro, je ne suis pas sûr. il suffit de prononcer leur nom pour avoir un petit rictus en se disant quelle catastrophe, quoi. La réalité, c'est que le marché français, il est surdominé, en tout cas sur la télé payante, par Canal+, et je pense à raison, parce qu'ils ont fait un boulot majeur depuis 1984, en fait, et c'est une marque extraordinaire. que je compare à la nôtre, hein, d'ailleurs, hein, l'équipe. Hein, ce sont des marques qui sont très emblématiques et qui vont bien au-delà de leur activité pure et simple. En fait, il y a des valeurs qui sont véhiculées, il y a un historique, un rapport au consommateur final qui est très ancré. Donc, les barrières à l'entrée sont très élevées sur le marché français. Pour moi, très, très élevées. Et d'ailleurs, il suffit de voir que Eurosport est quasiment en train de sortir, hein, du marché français. Demain, ce sera une verticale de sport de Discovery+. Bein, on ne sait pas vraiment, et moi, je leur souhaite de rester, mais leur modèle économique a quand même pas été couronné d'un immense succès, et comme je disais, il a fallu qu'il soit distribué en exclusivité par Canal+, pour enfin être à l'équilibre. RMC Sport, bon, on verra ce qu'il adviendra. Donc, l'entrée de nouveaux acteurs, bon, moi je pense que quand tu parles de plateformes américaines comme Amazon, qui est sur le marché français, ou peut-être demain Netflix ou Apple, que sais-je, ils ont des raisonnements qui sont très, très, très rationnels. Mmh. Et je ne les imagine pas démesurément entrer sur le marché français en faisant des coûts en surinvestissant et en payant des sommes indues pour acquérir des droits et prendre une position. En fait, ce sont des marques qui n'ont pas besoin de ça. Mmh. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas pour RMC quand ils ont voulu monter RMC Sport. Mmh. Il fallait faire une première grosse acquisition. Bon, ils ont surinvesti, ils ont payé trop cher pour les droits de Ligue des Champions en 2017. Bon, ben voilà. Bein Sport a tout acheté à un moment donné, il raflait tous les droits. Il faut se rappeler, hein, entre 2012 et 2015, il raflait tous les droits. Pour quel résultat? C'est une marque qui existe, qui est très belle, mais en fait, pour la faire perdurer, ils n'ont pas d'autre choix que de garder une offre qui soit à la hauteur de ce qu'ils... De ce que cette marque laisse entendre à ses consommateurs. Un Bein Sport qui demain n'a plus la NBA, un Bein Sport qui demain n'a plus la Bundesliga, la Serie A et la Liga, sachant qu'ils ont quand même plus beaucoup la Ligue des Champions et qu'ils ne l'auront plus à partir de 2024, bah c'est plus Bein Sport, quoi.
Mmh, bien sûr.
Hein? Donc, en fait, Bein Sport a eu un train de vie en termes de droits qui était très élevé et qu'ils ne peuvent pas se permettre, s'ils veulent faire perdurer la marque, de trop réduire. C'est un problème majeur. Donc, c'est pas vrai pour Apple, c'est pas vrai pour Amazon, c'est pas vrai potentiellement pour Netflix. Ils n'ont pas besoin de dépenser 800 millions d'euros pour acheter la Ligue 1, en fait, pour assurer une position et pour brander leur marque. Non. Donc, s'ils viennent un jour, comme c'est le cas d'Amazon, sur la Ligue 1 et Roland-Garros, si d'autres viennent sur le marché français, ils le feront de manière, j'en suis convaincu, précautionneuse, et économiquement viable. Bon, bah, ce sera de nouveaux acteurs sur le marché. Mmh. Voilà. Et tant mieux pour les ayants droit. Tant mieux pour les ayants droit. Mmh. Il faut qu'il y ait de la diversité dans les diffuseurs.
Ok. Bon, écoute, je te propose de clore le chapitre des droits qui est évidemment passionnant. Écosystème ô combien mouvant.
Oui. Oui.
Pour aborder... la pépite, alors on parlait du biathlon qui a été la pépite, mais là on va parler de la pépite du groupe, l'équipe de France Football, et je parle évidemment du Ballon d'Or.
Ouais.
Peut-être l'actif ou le seul actif avec le Paris-Dakar, le Tour de France de la Galaxie Amaury, qui a une portée très internationale, peut-être la marque la plus connue avec le Tour de France de la Galaxie Amaury. Est-ce que tu peux nous retracer l'histoire très rapidement du Ballon d'Or et pourquoi l'équipe a voulu reprendre ce petit bébé qu'elle avait créé et s'en occuper à 100%?
Alors, c'est pas l'équipe qui a créé le Ballon d'Or, c'est France Football.
Ouais, France Football.
Alors, France Football appartient à l'équipe. Hein,
voilà. Mais
rendons à César ce qu'il
y a. Bien sûr, évidemment.
Alors, le Ballon d'Or a été créé en 1956. Alors, pour la petite anecdote, en 1956,
l'équipe... Tu n'étais pas né.
Non, non, je n'étais pas né. Et je pense que 90% des gens qui travaillent dans notre groupe n'étaient pas nés. N'empêche qu'on en est les héritiers et qu'on va transmettre ça... au suivant, hein, on va tout faire pour. Pour la petite histoire, l'équipe crée en association d'abord avec les clubs champions et l'UEFA vient s'ajouter, crée la première Coupe d'Europe des clubs champions, plutôt à l'automne 55. Pourquoi est-ce qu'ils créent la Coupe d'Europe des clubs champions? Parce que, en fait, y a des moments dans la semaine, des moments dans l'année où il n'y a pas grand-chose à raconter. Et en fait, cette compétition, elle est créée notamment pour avoir des matchs de foot en milieu de semaine. Mmh. Drôle, n'est-ce pas?
Ouais.
Ça marche. Et bien, France Football, à la fin de l'année 66, ils créent le Ballon d'Or parce qu'ils n'ont absolument rien à raconter au mois de décembre. Véridique. Et 66 ans plus tard, le Ballon d'Or, c'est devenu les Oscars du foot.
Bon. Ouais.
Pourquoi c'est devenu les Oscars du foot? Parce que la formule n'a jamais changé. Alors, je dis ça, hein, peut-être que ça peut paraître immodeste, hein, mais moi, j'en suis pas le père fondateur, j'en suis rien de plus que un des responsables aujourd'hui. Mais je
le
pense
Global
vraiment
Head.
Que. Oui, oui, mais d'abord, Global Head, ça veut dire que ouais, je m'occupe de cette marque et que c'est une marque qui est fabuleuse. Mais je dis qu'elle est fabuleuse pas parce que je l'ai décrétée, c'est parce que je vois la façon dont notamment les grands clubs, le Real, le Barça, le Bayern, City, le PSG, nous parlent. Mm-hmm. Et c'est pas pour nos beaux yeux, mais c'est parce que le Ballon d'Or représente pour eux et pour leurs joueurs un Graal. Voilà.
Ouais.
Donc on peut dire les Oscars, on peut dire le prix Nobel, bon, ça c'est un peu présomptueux puis c'est un peu grotesque parce que le prix Nobel, ouais, ça couronne des scientifiques ou des grands écrivains ou des grands économistes, donc c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est l'histoire en fait qui crée la valeur de ce prix. Le Ballon d'Or a été décerné toutes les années depuis 1956, alors hormis 2020, décidé à cause de la pandémie de ne pas remettre de prix, mais toutes les années sur le même modèle. C'est-à-dire, c'est des journalistes, un par pays, chacun a la même, chaque voix a le même poids, et on va voter pour le meilleur joueur. Initialement, c'était le meilleur joueur d'Europe, mmh, et puis c'est devenu le meilleur joueur du monde en 1995, évoluant en Europe, et à partir de 2002, il n'y a plus de limite et plus d'exclusive, c'est le meilleur joueur du monde, il peut jouer dans n'importe quel championnat. Mais bon, enfin, ça, ce sont des changements de scope, mais la méthode est restée la même depuis toujours. Et donc, en fait, c'est comme Roland-Garros ou les tournées du Grand Chelem pour les joueurs de tennis, c'est comme le Grand Prix de Monaco pour les pilotes de Formule 1, en fait, ce sont des trophées qui font partie de l'histoire de leur sport. Et ben voilà, Benzema, il a gagné cette année le même prix que Platini, que Beckenbauer, que Di Stefano.
Ouais.
Oh, bah, tu rentres dans le Gotha, tu rentres dans une confrérie qui liste les plus grands de ton sport, ouais, depuis
et
70 ans. Quoi.
C'est quoi le... Enfin, du coup, toi, tu as une bicéphalité assez dingue, parce que du coup, on va dire 4-5 mois de l'année, tu bosses à fond sur le Ballon d'Or.
Ouais.
Et 12 mois de l'année, tu bosses sur l'acquisition.
Ouais.
C'est quoi le comment le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or est située dans l'écosystème équipe Amorik? Qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, dans 5 ans, ça va être quoi de différent de ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est vous en faites vraiment votre porte d'entrée sur l'international et il y a des percolations que vous envisagez sur le tour du Ballon d'Or? Explique-nous un peu la stratégie, la vision derrière tout ça.
D'abord, le Ballon d'Or, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est un des seuls projets, ma connaissance, qui soit transverse à l'intégralité du groupe.
Mmh.
La presse écrite, l'équipe et France Football, le digital, chez nous notamment les réseaux sociaux, qui sont hyper, hyper impliqués parce qu'il faut, faire vivre tout ça de manière la plus large possible, mais aussi notre chaîne de télé parce que c'est les équipes de la chaîne qui produisent la cérémonie, mais aussi notre régie pub qui vend le sponsor et ASO qui distribue les droits médias dans le monde entier et qui assure le servicing. Et en fait, c'est le seul projet, à ma connaissance, hein, qui embarque toutes les équipes de tous les étages du groupe Amaury. Donc ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, je pense et j'espère qu'on va en faire quelque chose qui est à la hauteur de la puissance et du potentiel de cette marque. C'est-à-dire que chaque année, on se l'est, entre guillemets, réapproprié au sortir de l'accord qu'on avait avec la FIFA, qui a couru de 2010 à 2015. Donc on a repris entièrement la main sur l'organisation du Ballon d'Or et son branding, et son marketing et son développement, notamment commercial, c'est pas un gros mot, à partir de 2016. Et en fait, il ne fait que croître. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait que croître? Sûrement parce qu'on travaille bien, mais on travaille bien sur les bases d'une marque qui est juste exceptionnelle. Donc moi, je travaille de très très près là-dessus avec Pascal Ferret, qui est le rédacteur en chef de France Football, qui assure toute la partie essentielle de scrutin. On a créé de nouveaux prix, notamment le Ballon d'Or féminin à partir de 2018, et puis on a ajouté des trophées qui portent le nom d'anciens lauréats du Ballon d'Or, trophée Copa pour le jeune, le joueur de mon 21 ans, le trophée Yachine pour le meilleur gardien, le trophée Gerd Müller pour le meilleur buteur. Et ça, évidemment, ça ne se fait que parce que éditorialement, la rédaction de France Football considère que cela a du sens et vient augmenter et améliorer l'expression de la marque Ballon d'Or. On le fait pas pour juste créer un outil de sponsor supplémentaire. Ce sont les journalistes et la rédaction de France Foot qui a toujours le final cut sur ce genre de développement. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec Jérôme Cazadieu, qui est le directeur de la rédaction de l'équipe, parce qu'on met en musique un travail d'éditorialisation qui est juste énorme et qui nous amène à avoir des interviews tout au long de l'année avec les plus grands joueurs du monde. Et en fait, la matière première, si j'ose dire, du Ballon d'Or, c'est les joueurs. Voilà. Et en fait, pour répondre à ta question, le développement du Ballon d'Or, il s'associe de manière totalement viscérale avec son lien avec les plus grands joueurs. Voilà. France Football, et c'est pas l'équipe, France Football obtient chaque année une interview avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Pourquoi ? Parce que France Football est la marque qui décerne le Ballon d'Or chaque année. Donc ça, ça a une valeur démentielle. Et évidemment, on va travailler à continuer le développement de la valeur de la marque Ballon d'Or avec nos partenaires principaux qui sont les joueurs et évidemment leurs employeurs, les clubs.
Mais tu l'as dit, là, on va continuer à poursuivre le développement de la marque Ballon d'Or. Mais tu l'as dit juste avant, les gens, ils viennent, enfin les joueurs que tu as cités, ils acceptent les invitations de Pascal Ferret de France Football parce qu'ils ont derrière la petite tête le Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a une ambition de faire migrer sous une seule et même marque qui serait Ballon d'Or le travail de France Football ou est-ce que la marque...
Non, France Football, France Football, c'est en soi une institution.
Ouais.
Alors, France Football, ça reste un... Aujourd'hui, c'est devenu un mensuel, mais qui a toute sa place dans notre écosystème. Et le Ballon d'Or, France Football, enfin, ce sont deux marques qui vont de pair, en fait, qui sont intriquées.
Et ça c'est vraiment encore le cas ? En effet, on disait le Ballon d'Or France Football à l'époque. Maintenant,
ça reste le Ballon d'Or France Football. D'accord. Évidemment, par facilité, pour que le message soit le plus rapide possible. Parfois, le nom de France Football n'est pas prononcé, mais typiquement, la soirée du Ballon d'Or, la cérémonie, dans le générique d'introduction, France Football présente. C'est une condition sine qua non, en fait, puisque nous, ce que l'on a fait quand on s'est séparé de la FIFA, ça a été de recentrer le scrutin sur le principe que, voilà, c'est un scrutin... qui est fait par des journalistes. Mmh. Bon. Et en fait, c'est la rédaction de France Football qui liste les nommés, typiquement, et personne d'autre que les journalistes de la rédaction de France Football. Et c'est la rédaction de France Football qui assure, qui conduit le scrutin, qui choisit les jurés, qui sont des journalistes, un par pays, des équivalents de France Foot dans le monde entier, en fait. Donc, c'est le saut de qualité, je pourrais dire, d'irréfutabilité du Ballon d'Or, il repose précisément sur le fait que ce soit France Football qui le conduise. Et ça a été le cas depuis toujours. Donc c'est essentiel, ça.
Ok. Bon, du coup, ton métier, c'est d'un côté acheter et de l'autre dépenser. Parce que mais même si tu fais gagner, le Ballon d'Or génère des revenus. À chaque fois, du coup... le Ballon d'Or sollicite un nombre de personnes incroyables. Tu as dit que c'était un des seuls projets transverses à tout le groupe. Mais grosso modo, l'organisation du Ballon d'Or, c'est combien de personnes qui sont sollicitées et à quoi tu mesures la réussite d'une session d'une année ? Alors, tu vas me dire évidemment au revenu, au vu.
Ouais.
Est-ce que tu as d'autres indicateurs de performance de tout ça?
Alors,
Beaucoup de questions dans une seule.
ouais, première question, je ne saurais pas dire précisément
Ouais.
combien de personnes sont mobilisées, mais j'ai un chiffre qui m'a fait un peu bondir. C'était le nombre de personnes qui étaient accréditées
D'accord.
à la cérémonie, dernière cérémonie, donc il y a un peu plus d'un mois, 17 octobre dernier, il y avait 750 personnes qui étaient accréditées, hors les journalistes. J'enlève les
D'accord.
journalistes. Il y avait 200 journalistes accrédités qui venaient de l'extérieur, mais des gens qui travaillaient sur l'événement, concrètement, le jour même, pour le délivrer. Pas que des gens de notre groupe, hein, parce qu'on n'est pas 750. Mais il y avait 750 personnes sur site pour délivrer l'événement. En interne, entre les équipes d'ASO, de notre régie pub, notre chaîne de télé, de France Football, du quotidien, des réseaux sociaux, à la fin, c'est probablement 150 personnes qui travaillent sur le Ballon d'Or. Et nous, tout au long de l'année, on commence, on fait une sorte de kick-off aux alentours de fin février, début mars. Moi, j'ai la chance d'être un peu chef d'orchestre d'une équipe pluridisciplinaire qui vient donc, voilà, toute l'identité que je te citais, une trentaine de personnes. C'est une trentaine de personnes qui m'accompagnent. Sur l'année, évidemment, au début, on se voit une ou deux fois par mois, et puis au fur et à mesure, évidemment, ça s'intensifie. Mais il y a beaucoup de monde, et tout le monde le fait dans une espèce d'apport des compétences des uns et des autres pour un seul et unique but commun. Donc, c'est que ce soit réussi. Et alors, donc, à quoi est-ce qu'on mesure que c'est réussi? Deuxième partie de ta question, c'est, oui, il y a du quali et du quanti. Bon, alors, le quanti, oui. C'est l'audience en France, l'audience dans le monde. Est-ce qu'on est têté sur Twitter pendant un jour, pendant 2 jours? On fait des mesures de reach en social media. Donc, on a conduit chaque année une mesure avec Nielsen. Donc, Nielsen nous a dit qu'en 2022, notre reach, c'était 2,9 milliards de personnes. Bon, bah, c'était 2,8 en 2021. Donc, on a encore grossi, ça nous paraît. Juste hallucinant comme chiffre, mais bon, enfin, c'est Nielsen qui nous le donne, donc on le croit. Évidemment, les résultats plutôt économiques, oui, bah, c'est une année qui est tout à fait satisfaisante. Ça, c'est le quanti. Après, le quali, c'est autre chose. Et cette année, on a le sentiment d'avoir délivré une cérémonie meilleure que d'habitude, et probablement la meilleure depuis qu'on a repris la main sur le Ballon d'Or en 2016. C'est le retour des clubs, c'est le feedback global et un peu comme ça impalpable ou difficilement palpable qu'en dit la presse, qu'en disent les fans. Voilà, bah Benzema c'est un beau vainqueur. Voilà. Il n'a pas été contesté. Pareil pour Puteyas qui a gagné le Ballon d'Or féminin. Les joueurs étaient très contents. Ça compte beaucoup pour nous. Délégation du Real Madrid, celle du Barça, celle du Bayern, Robert Lewandowski, qui pour la quatrième fois de suite vient et ne gagne pas. Pour nous, ce sont des indicateurs qui sont hyper importants. Comment ça se passe avec, encore une fois, nos premiers partenaires, ce sont les joueurs et les clubs. Et les retours de tous les clubs, et cette année, on avait 25 délégations, hein, donc c'est pas rien. Pas juste le Real et le Barça, on avait City, on avait le PSG, on avait Kevin Trapp qui est venu, parce qu'il était nommé, on avait le Borussia Dortmund, on avait l'OL, Arsenal. Et en fait, on a eu, moi c'est quasiment le point qui m'importe le plus à la bottom line, c'est que les clubs nous disent ah, merci, c'était super, on est très très contents. Ça a eu un gros impact sur nos social media, les joueurs étaient contents, etc. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils vont revenir, quoi.
Bien sûr.
Et voilà, c'est la valeur se situe là-dessus, notre cérémonie, notre marque. Et cette année, les feedbacks quali de cet ordre-là, ils étaient exceptionnels.
Ok, super. Écoute, on arrive à la fin. J'ai souvent une question sur un peu les rencontres déterminantes, marquantes de ta trajectoire. Je pense qu'on a bien compris que Patrick Chaine et Cyril Linette l'ont été. Est-ce
Ouais.
que tu avais d'autres bonhommes ou bonnes femmes, alors ça ne marche pas pour une femme, mais femmes ou hommes que tu as rencontrés sur ton parcours qui ont été déterminants pour toi professionnellement, pas forcément parce qu'ils t'ont mis à des postes particuliers, mais ils t'ont impressionné par leur intelligence, leur capacité de travail ou leur intuition
Ah, moi, je suis très, très fan d'un gars qui s'appelle Jérôme Cazadieux, qui est le patron de la rédaction de l'équipe, qui a sans doute le métier le plus dur dans notre secteur. Patron de la rédaction de l'équipe, ça veut dire tous les jours se voir critiquer.
Bien sûr.
En interne comme en externe, parce que la une, parce que l'info, parce que la partie pris ne plaît pas à un tel ou un autre. Et je pense que dans ce secteur, c'est le gars le plus créatif que j'ai jamais rencontré. Et pour le coup, Jérôme est très respecté, mais pas très connu. Il n'est pas nécessairement dans la lumière et il ne s'y met pas. Mais il est doté d'un talent rare, c'est de vraiment savoir créer des formats et savoir innover éditorialement. Et c'est pas un homme de télé, c'est un homme de presse écrite et de digital. Et en fait, voilà, je te disais tout à l'heure, le cœur de notre réacteur pour nous, c'est le digital. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit innover, c'est là-dessus qu'on doit être force de proposition pour recruter de nouveaux abonnés, pour donner envie là-bas de lire du sport, de regarder du sport. Ça commence par là. Et voilà, sa capacité à créer des nouveaux formats, à proposer des choses, à détecter des jeunes journalistes et à leur donner des responsabilités, moi, me bluffe. C'est un excellent, excellent professionnel dans ce secteur.
Écoute, je te propose qu'on termine par ces éloges sur Jérôme, parce qu'on est déjà depuis un petit peu plus d'1 heure ensemble et on va laisser les gens revenir à leur vie.
Exactement.
Je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps pour Dream Team et avec moi. C'était hyper intéressant, mais j'avais aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci Pierre.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.